Ouais, vous en êtes un.
J'en suis un ?
Oh oui, et un beau.
Mais vous êtes fou !
Vous écoutez les entonnoirs. Vous écoutez les entonnoirs.
Si vous êtes normal, vous n'avez rien à foutre ici. C'est évident.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
T'as fou ? C'est pas bien normal. Il n'est pas comme nous.
Les anormaux, quoi, les anormaux. Les entonnoirs.
Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Normal. J'ai un coup de gueule à passer.
Mais faites quoi, on fait notre émission de radio,
Expliquez
quoi.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Non, mais c'était un coup, là.
Il faudrait construire des asiles de cons et vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
En se posant des questions.
Bonjour, chers auditeurs, chers auditrices. Nous sommes à aux entonnoirs, donc l'émission 243. Donc nous allons commencer par la musique de Roger Lucien.
Enchaîné par les poèmes de Bruno et Margot.
Après l'actu, donc les 30 ans de USCV.
Non, de RCV.
De RCV, bien sûr, excusez-moi. Et
le PS.
Et le PS.
Donc, la musique de Margot.
La chronique sportive du futur de Florian et de Brahim.
La chronique Johan, la réserve fédérale.
Voilà. Et la spirale de François et Jérôme. Donc nous commençons avec Roger Lucien.
Bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, nous allons prendre la direction de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément du Bénin, où nous allons écouter une chanteuse très coquette, béninoise, qui nous interprète, Malaika, qu'on l'appelle Angélique Kidjo.
Malaika, nakupenda malaika, malaika, nakupenda malaika, ningekuwa mariwe, ningekuwa dada. Nothing and a man is in a way. Ningekuwa mamalaika. Nothing and a man is in a way. Ningekuwa mamalaika. Esa. Sasudu wadu honyengu. Esa. Sasudu wadu honyengu. Namini fo nyeji. Kingana mwezi nyo. Nashi. Nashing on a money, see no way. Ningakua, mama laika. Eva. Kidege. Kukuasa, kidege. Kidege. Was a lucky again. No, uniform, you can am wedding. Oh, nothing and a man is in a way. Jungly, ningekuwa mamalaika. Nashingana mani sinawe, ningekuwa mamalaika. Esa zasudu waduhu nyungu. Esa zasudu waduhu nyungu. Na minifo nyeji ki kinga na mwezi nyo. Nashinga na mani sinawe, ningekuwa mamalaika. Nashinga na mani sinawe, ningekuwa mamalaika. Ningekuwa mamalaika. Ningekuwa Mama Laika.
Les entonnoirs. Bien, très belle musique de Roger Lucien, mais Laika. Donc, Roger Lucien, pourquoi cette musique hein?
Ah, c'est une chanteuse que j'écoute depuis plusieurs années.
Oui.
Et donc, j'avais jamais eu l'occasion de la passer à la radio. Et j'aime bien sa voix. Donc, elle a chanté avec des grands artistes. Donc, okay. J'aime bien.
Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça en fait hein? Parce que moi, j'arrive pas à parler.
Mais apparemment, ça veut dire ange en arabe, le
oui,
titre du morceau.
Oui, tout à fait.
Ange en arabe.
Oui, tout à fait.
Bon, bah, merci.
Autrement, j'apprécie. Je te remercie, Roger Lucien. À chaque fois, j'apprécie beaucoup le fait que tu nous présentes de la musique africaine. Continue. Ça décrase mon cerveau dans le sens où les clichés par rapport à une culture que je connais peu, en définitive, bah, s'en vont. Dans le sens où je pensais que la musique africaine était plutôt fondée sur la percussion, bah non, il y a la mélodie et, oui. Et la voix aussi. Voilà, et ça, je merdais, voilà.
Toujours des nouveautés avec Roger Lucien dans ces styles de musique et c'est apaisant et voilà, ça met bien. Donc, on va continuer avec les poèmes. Donc, on va commencer par Bruno.
Donc pour vous dire que bientôt je m'en vais en voyage, donc vous allez le découvrir maintenant, ça s'appelle D'ici peu. D'ici peu, sans réticence, je me rendrai savamment et en silence vers le monde complice d'êtres bleus, féeriquement ibis. Et tout de suite avec eux, dans des rires heureux, je prendrai un bol de folie pure en rêveur qui s'assume dans la peau d'aéro. Concrètement merveilleux. Et lumineusement, des femmes dont la grâce aime aussi courtiser l'inconnue imprévue dans leur vécu prononceront à mon égard une soif intransigeante de désir, élaborée tout en étant subie, avant de s'acharner dans la prière que sera leur chair, à vouloir m'offrir des joies libertines dans l'obsession d'un plaisir qu'elles fredonneront dans de longs et vertueux soupirs. D'ici peu, vers la délivrance, je m'élèverai, le temps incompris d'un délire ou un poète libre qui se fout de tout. J'irai insaisissable, rejoindre une contrée sans entrave, avec cette seule volonté de jouir, dans le partage et la soumission, en n'oubliant pas de faire un bras d'honneur à une bande de cons que je ne tiens vraiment pas à convertir. D'ici peu, je redeviendrai fou et qu'on me fiche la paix.
Bravo Bruno.
C'est très bien, très joli. Donc, merci bien Bruno. Nous allons passer avec le poème de Margot, éventuellement. Voilà. Donc, les gitans et les manouches sont des gens du voyage. Ils vivent en caravane ou dans une roulotte. Ils ne restent jamais dans la même ville. Mon grand-père était un vrai manouche. Il a jamais vécu dans une maison, ni en roulotte. Dès qu'il a rencontré ma grand-mère, il a complètement arrêté de vivre en roulotte et en caravane. Il a dû s'adapter à cette nouvelle vie. Il l'a fait par amour pour ma grand-mère. Voilà. Qu'on appelait Pépé et Mémé. Merci Margot. Donc voilà.
Alors, on va continuer par.
Désolé.
Donc je laisse la place à Laure.
Oui, bonjour. Je m'appelle Laure et je voudrais faire partager mon expérience d'Erasmus en Espagne il y a à peu près 10 ans. Donc je suis partie là-bas pour apprendre l'espagnol, notamment découvrir la culture. Je suis partie en Andalousie, plus exactement à Cadiz, parce que j'ai toujours rêvé d'aller en Andalousie. Et en arrivant là-bas, j'ai été logée dans une auberge de jeunesse, parce que je n'avais pas de logement. J'ai dû téléphoner partout pour retrouver un appartement. Et donc après, je me suis retrouvée dans un duplex avec une colocataire que je connaissais, qui était à la fac avec moi de Valenciennes. Et donc là-bas, j'ai visité des monuments historiques et j'ai aussi vu le flamenco.
Merci.
Voilà. Merci. Donc, nous allons continuer avec les actus.
Les 30 ans de RCV.
De RCV, voilà.
Commenté par Ben.
À toi, Ben.
Bonjour à tous. Oui, je suis venu faire un peu de promo pour les 30 ans de RCV. Donc, RCV qui est une des radios qui diffuse les entonnoirs. Et donc, qui fête ses 30 ans, radio associative libre et musicale, puisque la plupart d'entre vous connaissent, j'imagine, aussi bien autour de la table, puisque vous écoutez souvent les entonnoirs sur RCV, et puis vous aussi, auditeurs. Donc, à l'occasion de ses 30 ans, on va faire plein de concerts tout au long de l'année 2012, et ça démarre cette semaine, le vendredi 27 janvier, avec un concert dub en la présence de Adrian Sherwood, et après, ben, tous les mois, ça va se dérouler notamment beaucoup à la péniche façade de l'Esplanade à Lille. Donc c'est juste pour vous dire qu'il faut rester à l'affût toute l'année sur le site de RCV. On vous annoncera les concerts organisés. Je vous donne tout de suite donc le premier vendredi 27 janvier, Adrian Sherwood. Et le jeudi 2 février, ce sera très rock'n'roll aussi à la péniche, avec The Rich Kids, les Dead Astro Pilots et Dominique Strauss-Korn en robe de chambre léopard évidemment.
Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à RCV pour ses 30 ans ?
À 30 ans, normalement, on a déjà le permis de conduire, on a déjà un appart. Peut-être de changer d'appartement, ce serait pas mal. Truc un peu plus grand.
Oh, ça, je peux chanter de chanson.
Ou de chanter une chanson. Ah, mais nous, on diffuse des chansons. Nous, on
on peut chanter une chanson.
Ah, toi, tu veux chanter une chanson
d'anniversaire.
Vas-y, chante-nous une chanson, alors.
Happy birthday to you. Happy birthday to you, RCV. Happy birthday to you, RCV. Happy birthday to you.
Excellent.
Bah, RCV vous dit merci.
Eh ben, RCV, ça veut dire quoi?
Ça veut dire Radio Cité Vauban.
Ok. Voilà. Et non pas Radio des cons. Radio Cité Vauban.
Radio des cons, vraiment.
Ça pourrait.
Nous continuons avec le PS, hein, toujours l'actualité bien sûr, avec Johan.
Alors je vais prendre le micro. Alors le PS, pourquoi le PS cette semaine? Parce que dimanche dernier, il y a eu le premier meeting de François Hollande. Et voilà, on a envie d'en parler. Bruno, je te laisse la parole si tu veux bien. Parce que je sais que tu as des choses à dire. Je vois dans ton œil l'étincelle de la révolution.
Donc oui, il y a l'œil de la révolution dans le sens où ce qui s'est passé hier, c'est un premier pas pour un changement de monde, c'est comme il y a eu le premier pas sur la Lune, quoi. Voilà quoi. Dans le sens où enfin il y a un discours qui sort du milieu ambiant des élites mondialistes financières et néolibérales. Et c'est salut en France. Et ce premier pas qui a pour moi qui a été initié par le changement de président aux États-Unis, Obama qui a remplacé Bush, qui a fait qu'il y a eu une ouverture libérale démocratique, qui a fait qu'un nouveau vent a pu arriver, débarquer en Europe, quoi. Donc voilà, c'est une bonne chose. Mais par rapport à ça, j'ai envie de mettre la chanson, m'écouter la chanson de Jacques Dutronc, l'opportuniste, qui va être toujours sur la mode, dans le sens où il y a au PS des gens. Je crois que Hollande est sincère. Hollande est sincère, il avait caché son jeu, il a joué à l'escargot, il a joué au mou, enfin il a assez de choses pas possible, mais finalement il est sincère, il en veut vraiment avec d'autres du PS, mais il y a des opportunistes, des girouettes politiques que je ne sais pas saquer, qui étaient bien dans leur ego ou dans le fait qui mangeaient au râtelier du néolibéralisme, qui disaient par exemple le DSK y est bien et qui seront les premiers à dire vive le MLF, qui disaient par exemple qui disaient que finalement il fallait une TVA sociale et qui diront vive la gauche comme Manu et Valls. Donc par rapport à ces gens-là, je dis que le PS, s'il veut être crédible, il devra se débarrasser de ses brebis galeuses. Je considère.
Je te réponds, alors mais c'est pas uniquement pour être en esprit de contradiction avec toi. Et moi j'ai 26 ans, j'ai voté une fois pour une élection présidentielle, et sincèrement je suis pas du tout crédule dans le discours de François Hollande, j'y crois pas. Sincèrement ça sonne trop scénarisé, tu vois, avec le meeting, avec qu'il produit lui-même, tu vois, qui passe les images à la télé. Moi ça me semblait de la politique spectacle, fiction, et d'instinct, mais je me trompe peut-être, hein, je dis pas que j'ai la vérité, je ne fais pas confiance au Parti Socialiste. Et comme exemple, je dirais, c'est un peu comme François Mitterrand en 81. Il portait l'espoir et finalement, ça a pas été la force tranquille, mais ça a été une sorte de farce tranquille. Et moi, François Hollande, je le recale, j'y crois pas. J'y crois pas, mais c'est pas juste pour être en contradiction, c'est selon ce que je connais du monde et ma vision des choses.
Par rapport à ça, j'apprécie ta circonspection. Dans le sens où tu remets les pendules à l'heure, où il faut éviter à tout prix l'angélisme. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut à tout prix passer la chanson de Jacques Dutronc, l'opportuniste. Bon, pour dire. Et par rapport à ça, je crois qu'aussi qu'il y a une période historique, c'est qu'il y a une différence entre 1981 et aujourd'hui, c'est qu'en 1981, la mondialisation financière c'était encore la dernière issue pour le capitalisme. Alors qu'aujourd'hui, ils sont au pied du mur, ils sont coincés, et voilà quoi.
Alors, moi j'aimerais juste remettre un peu en perspective par rapport aux primaires qu'il y a eu au Parti Socialiste, quand Martine Aubry nous disait que François Hollande était le candidat du système. Je sais pas si tu te souviens. Et du coup, j'ai tendance à la croire, peut-être parce que je suis nordiste et que je suis chauvin au niveau de Lille, mais j'ai tendance à la croire et ça me semble être une tartufferie, j'ai envie de dire, la candidature Hollande.
Je vais te répondre tout de suite, je vais être un peu long, excuse-moi une minute, mais dans le sens où tous les politiques ont lu le bouquin qui est phare, qu'il faut lire à tout prix, qui s'appelle La Société du Spectacle de Guy Debord, qui était un situationniste, un homme d'extrême gauche, qui montrait que la politique devenait du spectacle, et c'est par le spectacle que finalement on percute les gens, quoi. Bon, voilà, quoi. Et pour se faire du pognon et pour percuter aussi, quoi. Et donc, il y a une méthode américaine, spectacle, par les primaires. Je suis d'accord avec toi. Et par rapport, il y a eu un sinoche pas possible, pourquoi, où finalement on se jetait des noms d'oiseaux, où finalement il y a eu des égos, où on singeait l'Amérique. Pourquoi? Parce qu'en face, t'avais un Sarko et des banquiers et une bourgeoisie française qui est nazie dans les faits, qui est nazie, qui est féodale, qui a rompu à 1789. Et par rapport à ça, il fallait biaiser. Voilà, c'est mon avis, quoi.
Alors j'appelle les réactions autour de la table, parce que là, c'est un dialogue entre moi et Bruno, et on n'est pas les stars de l'émission. Donc,
bah oui, alors donc...
Alors, pas de réaction. Bon, ça soulève les foules, la candidature de François Hollande, c'est magnifique.
Non, moi je trouve que il y a eu des primaires qui ont été faites démocratiquement. On est ressorti un candidat et qu'il faut respecter ce candidat-là pour le PS, c'est tout.
Oui, bien sûr, mais c'est... Ah, Ben, oui.
Je vais compléter un peu ce que tu disais. Moi, je savais pas du tout qu'il y avait ce meeting au Bourget. Je suis tombé sur la presse ce matin avec toutes les réactions des autres hommes politiques qui disaient « Ouais, c'est trop fort, François Hollande, ça y est, il est parti ». En fait, t'as raison, c'était complètement scénarisé, quoi. Il fallait absolument que ce week-end au Bourget, ce soit le lancement officiel de la campagne de Hollande. Il aurait pu dire n'importe quoi, de toute façon, c'était le week-end du PS, Bourget, ça y est, Hollande, il a lancé sa campagne. Enfin voilà, comme tu dis, c'est exactement ça, c'est très scénarisé. On verra ce qui se passera les semaines suivantes. La campagne va être longue, hein, quand même, je pense.
Ouais. Et je voulais dire un truc, j'ai complètement oublié. Vas-y Bruno, je vais peut-être retrouver ce que j'allais dire.
Moi je suis pas d'accord du tout avec tout ce qu'il dit François Hollande, dans le sens où par exemple par rapport à l'héritage de Mitterrand. Mitterrand, bah non, je l'ai là en train de la gorge. Il faudra que le PS dise pourquoi il a cautionné 30 ans de libéralisme. Il faudra qu'il s'explique, voilà, dans les Français, pour être crédible, voilà. Et deuxième, pour rectifier, tira après. Autrement, s'il fait pas d'autocritique, mais il est pas crédible, voilà. Et deuxièmement, le fait que sur la croissance, bah, la croissance, miser sur la croissance, c'est absurde. La planète, c'est à ses limites, quoi. Donc parler de croissance quand un monde a ses limites, c'est absurde. Et troisièmement, j'applaudis Hollande, c'est quand il a décidé de mettre la laïcité dans la Constitution. Pourquoi il fait ça? Parce que justement, un mec comme Claude Dehan, il a été mis en place par le Vatican. Donc, ça se dit bah oui, voilà, donc.
J'ai encore oublié ce que je voulais dire, enfin bref. Oui, si, voilà. Je voudrais juste qu'on se rappelle en 2007 les promesses de Nicolas Sarkozy, quand même. C'était le plein emploi, il devait avoir le plein emploi en 2 ans, il ne devait plus avoir de SDF en 2 ans. Il devait aller chercher les Français là où ils sont, comme il disait, il allait tous les sauver. Et au final, il nous l'a mis à l'envers, il nous l'a fait à l'envers avec la crise. Alors est-ce que François Hollande est sincère ou est-ce qu'il se dit la crise va s'aggraver, donc je peux promettre n'importe quoi et du coup il y aura la crise, donc les promesses elles sauteront. L'avenir nous le dira. Je n'ai pas d'opinion sur ça.
Tu fais pas un peu un jugement de valeur parce que un procès d'intention, il a pas encore donné son. Moi je suis assez neutre, je suis pas socialiste et donc il a pas encore donné son programme. Je crois qu'il donne le 25. Et puis t'es déjà, tu l'as déjà étalé parce qu'il utilise des moyens de communication et les moyens que les autres utilisent et qui serait pas élu sans ces moyens de communication, il serait traité de communiste arriéré, de Robert Russe, s'il utilisait des petits moyens, donc il n'y a pas le choix pour se faire élire que de rentrer dans le moule. Et après, faut attendre son programme, quoi, avant de le juger. L'autre est quand même en train de.
Mais je m'intéresse à.
Après avoir été mou, après avoir été le suppôt des médias, il faut le laisser quand même. Je pense qu'il est en train de faire son truc, faut le laisser. Et après, tu verras s'il y a des idées. Il n'a pas encore donné son programme. Quand tu auras donné son programme, tu pourras dire je suis d'accord ou je suis pas d'accord.
Moi, j'ai un problème. Moi, je fais pas confiance aux hommes politiques. Et peut-être que je suis partisan à ce niveau-là. Peut-être que ma vision est faussée. Mais François Hollande, c'est quand même le oui au référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen. C'est un mec qu'on n'a pas entendu lors du déni de démocratie en 2007 quand Sarkozy a refait passer le traité. François Hollande, c'est la gauche caviar. Et donc moi, d'instinct, je lui fais pas confiance, mais j'ai peut-être trop d'idées noires en fait.
Attends de voir son projet parce que chaque candidat, c'est parce que si tu regardes derrière eux, tu peux redire les mêmes critiques et tu peux faire confiance à personne.
Bruno.
Oui. Et par rapport à ça, moi je peux te dire que des hommes politiques, il y avait un front de résistance contre un fascisme dingue, une pieuvre mafieuse de financiers qui a pris le pouvoir d'une façon qui a tous les pouvoirs sur la planète depuis 30 ans. Et par rapport à ça, des hommes démocrates, peu à peu, ont infiltré le système, c'est mon analyse que j'ai, et ont joué ce que j'appellerais schizophréniquement à double jeu, quoi. Et c'est l'analyse que j'ai. Elle peut se tromper, elle peut être vraie. Donc, mais si elle est vraie, quelqu'un comme François Hollande a d'autant plus de mérite. Et je considère aussi que certains aussi seront dangereux parce que justement, en jouant à double pieuvre, eux sont vraiment pourris. Voilà.
En tout cas, moi, je pense qu'on n'est pas dans un système démocratique. C'est peut-être pour ça que je fais des procès d'intention justement envers les candidats.
Mais si, on est dans un système démocratique, puisque
ça pourrait être le sujet d'une émission complète, je pense.
Mais voilà.
Je pense qu'on est dans
un système démocratique quand on compare certains d'autres pays.
D'accord.
Moi, je pense
d'accord.
qu'on s'en sort bien en France sur le plan de la démocratie. Et ensuite, par rapport au pouvoir qu'un un homme politique par rapport à l'oligarchie, au pouvoir financier, il a peu de marge de manœuvre. Hein.
Vous parlez d'oligarchie et vous dites qu'on est dans un système démocratique, c'est complètement contradictoire.
Non. En France, on n'est pas dans un système encore oligarchique. On dépend quand même d'un système financier qui est mondialisé. Et en France, on peut pas en faire l'économie. C'est le cas de le dire. Néanmoins, un homme politique n'a pas beaucoup de pouvoir, je répète, par rapport au pouvoir financier.
Pourtant, il a dit, je reprends ses mots, il a dit que son seul ennemi serait le monde financier. On attend des actes.
Parole, hein.
Bon, je pense qu'on va...
Attends, il y a juste Jérôme qui voulait intervenir.
Excuse-moi.
Ahmed.
J'écoutais, mais en fait, j'écoutais, oui, mais j'ai pas très bien... Enfin, si j'écoutais quasiment, enfin bref.
Mais on peut demander votre avis, vous, par rapport à vos...
J'écoutais, mais en fait, j'étais tellement dans ce que tu disais que...
Oui.
Je me suis fixée sur ce que tu as dit avant, vers la fin. C'est
parler dans le micro.
Oui.
C'est plus facile.
T'as dit son ennemi, c'était
le monde financier.
Le monde financier.
Non, c'est pas moi qui l'ai dit. Oui.
C'est François Hollande qui l'a dit.
Mais en même temps, ça peut être son ennemi. Mais ça peut être l'ennemi de la majorité des Français. Mais s'il est là, qu'est-ce qu'on fait?
Voilà.
Concrètement.
Attends, juste, il y a Jérôme qui voulait intervenir. Jérôme, tu laisses ta place.
J'ai oublié ma question, ça dure trop longtemps.
D'accord.
C'est l'oligarchie, c'est pas les riches. C'est ça, hein, je crois. C'est ça, l'oligarchie, c'est les riches.
Le pouvoir financier.
L'oligarchie, c'est un nombre de personnes réduites qui contrôlent une majorité de personnes qui a les intérêts financiers
le pouvoir
de tout temps, de tout temps, de tout temps. Il y avait le seigneur au Moyen-Âge, de tout temps. Ça a été comme ça. Il y a des gens qui dirigent les autres. Il faut des dirigeants.
Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais dans le monde actuel, on dit
prennent leurs responsabilités.
Ouais, mais dans le monde actuel, on dit qu'on est dans une démocratie. Donc logiquement, il ne devrait pas y avoir d'oligarchie, de contrôle. C'est le peuple qui devrait se contrôler lui-même. C'est contradictoire comme d'appeler ça démocratie.
Moi, Johan, il y a un truc que je vous ai. Ce qui est plus important pour moi que la France, c'est il y avait un rêve fantastique, c'était l'Europe, quoi. C'est un rêve incroyable, c'est génial. Je sais pas, maintenant on va en Belgique, on n'a plus besoin d'aller, on se fait plus arnaquer avec les francs belges. Rien que ça, c'est génial. Moi, c'est ça l'Europe, passer la frontière, et puis voilà, je vais à l'hôtel et puis je paye 1 euro. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça l'Europe. On voyage, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de douanes, les douanes sont volantes.
Voilà, donc voilà. Florent.
J'ai appris que la Croatie voulait les Croates voulaient faire participer à l'Union Européenne, mais je crois qu'ils sont plutôt contre.
Non, ils ont voté ils ont voté ce week-end à plus de 60% pour l'entrée dans l'Europe qui aura lieu le 1er juillet 2013 apparemment.
Ouais, donc le référendum, ça fait grâce au référendum, ils dans l'Union Européenne en fait.
Voilà, ils ont décidé d'entrer dans l'Union Européenne.
Pas sûr, ouais.
Mais rendez-vous compte qu'on peut aller au Rijks Museum à Amsterdam,
ouais,
voir Vincent Van Gogh ou que sais-je, Fernand Léger, tous les grands c'est génial avec nos petits euros dans nos poches.
Oui,
et on peut y aller à vélo, on peut y aller à vélo en été. Pour les jeunes qui en veulent et qui ont du courage et qui portent une tente en plus que de pédaler avec le vélo.
Mais Hollande ne peut rien faire pour ça. C'est à vous de le faire.
C'est à nous tous de faire.
Ni
à
politique.
Hollande, ni à monsieur, ni à monsieur Hadou.
Ni à moi.
Chacun doit mettre un peu du sien.
Voilà. Ne serait-ce que voter, oui. C'est important.
Bah oui.
C'est important. Et alors, le vote blanc est hyper important. On n'est pas dans une totale démocratie parce que le vote blanc, on ne le comptabilise pas. Et on m'a même dit que le vote blanc comptabilisait le plus fort. C'est-à-dire qu'on mettait les blancs avec les plus forts.
Non, ça c'est. Ça,
d'accord.
Ça,
tu me rassures, tu me rassures.
Est-ce que vous êtes tous inscrits sur les listes électorales?
Ouais. Oui. Et
donc, allez voter.
Oui, moi quand j'ai tendance à broyer du noir politiquement, j'ai tendance à voter blanc. C'est bizarre, mais c'est comme ça, quoi.
J'ai presque toujours voté.
Donc voilà. Et deuxièmement, et par rapport à ça, par rapport à l'Europe, les financiers l'ont foutu en l'air, et c'est les peuples qui se feront l'Europe.
Bon, Florent.
Qu'est-ce que
donc on va enchaîner.
Bon, nous enchaînons avec la musique de Margot.
Oui, donc nous allons écouter Cœur de pirate, adieu.
Tu ris si mal, tu ris de vivre, des taches de vin sur ta chemise, qui a de poutre éclatait, sur ton corps qui me repoussait. Tu fais l'amour en deux poussées, d'amour le manque la tournée, et pendant que tu t'articules, moi je soupire et toi tu meurs. Le menace de partir, parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la peur, car tu sais que plus rien ne me part. Mais dis-moi adieu demain, mais dis-moi adieu en chemin. Va voir mes potes, je n'en pense rien. Je t'ai aimé, je t'assure que c'est la fin. Gentil, ça va comme ça, les amis j'en ai plein déjà. Je n'aurai donc plus à t'entendre rentrer la nuit quand j'attends l'aube qui arrive en poussant les airs. Moi je me lève et toi tu meurs. Menace de partir, parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la peur, car tu sais que plus rien. Va voir les autres, je n'en pense rien. Je t'aime.
les entonnoirs.
Très bien, donc nous enchaînons toujours avec la chronique sport du futur de Florent Ibrahim.
Bon, la chronique du futur, Coupe d'Afrique, des nations.
Pour résumer, donc c'est la chronique sport sportive du futur. Alors vous devriez essayer de savoir si c'est de la fiction ou pas, vrai ou pas, vrai ou faux, ou c'est de la fiction ou pas. Donc c'est vous êtes peut-être au courant que la Coupe d'Afrique des Nations a lieu au mois de janvier et février. Alors c'est le site de Roger Milla qui joue avec l'équipe du Cameroun et qui a remplacé Drogba qui a été dopé en fait. C'est pour ça qu'ils l'ont jarté et puis bon. Ouais. Il est suspendu, il a pris deux ans de suspension et tout. Donc,
pourquoi
Drogba. Donc, c'est Drogba dopé, donc le sosie de Roger Milla, qui a participé à la Coupe du Monde 90 avec le Cameroun, et ben, c'est son sosie, il prend la place de Drogba en équipe de Côte d'Ivoire, voilà. C'est un peu tiré par les cheveux, j'en sais rien. Oui, le Ghana est un peu amoindri parce que déjà, les frères Ayou sont partis de l'OM pour ils devaient faire la Coupe d'Afrique des Nations, mais ils sont battus à l'entraînement et tout, donc ils ont chacun été tailladés sur les joues et tout, sur les côtés, et donc ouais, ils ressemblent aux frères Bogdanov parce qu'ils ont été défigurés après le combat, quoi. Donc voilà,
lui Bogdanov vient à Suzy parce que c'est son frère, parce que il raconte l'histoire de son vaisseau, ou soit il a été dans le temps, il a été dans le passé, dans le futur, ou soit parce qu'il a fait une connerie, il a traité l'arbitre de tous les noms, il a pas l'air de dire ça, mais c'est comme ça. On doit respecter le règlement des joueurs de football et de sportifs collatérisés, payés ou soit pas payés. Tu reprends parce qu'il a fait une connerie, peut-être il a fait une bêtise, ou soit il a fait une bêtise, mais il s'est trompé, mais à cause des médicaments, voilà. Ouais. Margot.
C'est pas vraiment ce dont je parlais au départ, là. Je finis ma rubrique. Alors, l'entraîneur de cette même équipe du Ghana, en fait, c'est un marabout. Et lui, son rôle, c'est de personne qui, dans les camps adverses, l'équipe adverse, ils sont pas trop au courant de ce qu'il fait, en fait. Mais avant chaque match, il mettait du sable devant les buts, et ça fait que les joueurs tiraient à 20 mètres à côté du but ou se mangeaient le poteau en pleine tête vide, parce qu'ils ont pas de cerveau. Donc voilà, en fait, si je stigmatiser les joueurs qui ont une tête vide, donc voilà. Et je voulais dire que ah oui, les Ghanéens ont des poupées vaudou, j'ai appris, hein. Donc il piquait avec des aiguilles, merci. Coopérer 100 fois, téléphone ne doit pas sonner. Ce qui fait qu'aussi les défenseurs adverses marquent contre leur camp. Et le Ghana, en finale de la CAN, a battu l'équipe B du Ghana, en fait, en finale. Donc, et Ghana A, Ghana B. Voilà, bah, bravo au Ghana, quoi. Deux fois le Ghana.
Je pense qu'il a une question.
Vive les matchs truqués.
Je remarque donc tu avais dit qu'il y avait un sorcier ou un marabout qui mettait du sable devant
voilà, tout à fait. Parce que quand les défenseurs adverses sont devant le but, ils marquent contre leur camp. Les attaquants qui vont sur le front de l'attaque, ils sont sur le front de l'attaque. À ce moment-là, il reste le poteau en pleine poire, en pleine tête, où il tire complètement à côté, dans les tribunes, au-dessus des tribunes. Voilà, c'est un peu. Est-ce que tu penses que c'est réaliste ou surréaliste?
Oui,
en partie irréaliste. Parce que c'est vrai que dans ces pays-là, il y a beaucoup de marabouts. En fait, c'est voilà.
Donc, j'en conclus que les marabouts ne sont des fouteurs de merde. Ils foutent plus que leur grain de sable. Voilà, quoi.
Ouais, mais, oui. C'est un euphémisme. Hein. Bon, bah, merci.
Donc, on va continuer avec la chronique. Oui.
On peut peut-être préciser, mais je sais pas, peut-être que vous l'avez précisé, c'est une chronique expérimentale cette semaine.
C'était ouais, une chronique, ouais. Bon, c'est la fiction. Vous l'aurez remarqué, c'est un peu de la fiction.
Donc, on va continuer avec la chronique de Johan, la réserve fédérale
américaine. Johan. Alors, je voulais faire une chronique sur la réserve fédérale américaine. Alors, déjà, c'est une chronique participative, hein, donc je vais vous poser une question. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, quand je dis réserve fédérale américaine?
Mais les élections, pas les élections. Mais en rapport avec les élections, peut-être.
Non, mais qu'est-ce que c'est que la réserve pour toi, la réserve fédérale américaine?
Pour moi, c'est un truc de pognon.
Bah, moi, c'est, je crois que c'est ce que... La banque américaine, quoi, c'est ça, quoi.
Alors, banque américaine, privée ou publique?
privé.
Non, public. C'est la banque publique américaine, en fait. C'est la Banque de France américaine.
Eh ben, première erreur, c'est une banque privée. Donc elle s'appelle Réserve fédérale américaine.
J'avais raison.
Et déjà là, quand c'est flou, il y a un loup. Là, c'est bizarre. Alors en fait, j'ai fait des recherches sur la Réserve fédérale américaine. Alors sur Internet, on entend dire que c'est quelque chose de très secret, en fait. Donc je vais vous faire l'historique de la Réserve fédérale américaine. Donc pour commencer, faut savoir qu'en 1907 aux États-Unis, il y a une crise économique. Je sais pas, quelqu'un peut-être en a entendu parler, Bruno, non? Donc c'est une crise économique qui a engendré de la pauvreté et donc une détestation de Wall Street. Et une volonté chez le peuple américain d'éviter la prise de contrôle du pouvoir par Wall Street, en fait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de nombreux banquiers qui désiraient instaurer une banque centrale aux États-Unis, donc une réserve fédérale, donc c'est-à-dire prendre le contrôle de la création monétaire, se sont réunis sur l'île de Jekyll Island en 1910 pour présenter au Congrès américain pour instaurer une réserve fédérale américaine. Alors, ils se sont réunis, en fait, ça a été très secret, en fait, ils se sont réunis dans des trains, parce qu'à l'époque, les journalistes étaient très à l'affût, donc pour berner les journalistes, ils ont changé de nom, ils sont montés dans les trains pour aller sur l'île de Jekyll, et donc, ils ont créé leur projet avec un sénateur qui s'appelle le sénateur Aldrich, qui les a aidés à formuler un projet de contrôle de Wall Street sur le pays, sans que cela ne se voie. Alors, dans un premier temps, c'est pas passé au Congrès, mais c'est passé 3 ans plus tard, en fait, en 1913, par le président Woodrow Wilson, qui était, selon une théorie économique, le président des banques, en fait. Donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que tu disais tout à l'heure que c'est une banque américaine, donc publique. En fait, pas du tout. C'est des banquiers. C'est un cartel de banques, en fait, qui crée la monnaie. Qu'est-ce que ça vous évoque quand je dis qu'ils créent la monnaie?
Bah, qui crée le dollar, à base du dollar. Non, le dollar. Face le dollar.
Ou soit
qui frappe la monnaie.
Ou soit il construit des billets,
Chacun son tour.
Et qui imprime les billets.
Alors en fait, avant 1913, avant que la réserve fédérale n'existe, les États-Unis n'avaient pas de dette. Et en fait, ce que fait la réserve fédérale, c'est que quand un État a besoin de l'argent, enfin quand les États-Unis ont besoin d'argent, ils prêtent de l'argent au gouvernement avec intérêt. Donc il faut savoir que avant 1913, la création monétaire n'était pas à des banques privées, donc il n'y avait pas de dette. Et donc depuis 1913, avec la réserve fédérale, les États-Unis, pour financer leur politique, empruntent à la réserve fédérale avec un intérêt. Donc c'est à partir de 1913 que la dette a commencé
à être créée.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait pas de dette comme maintenant aux États-Unis. Il y a 15 000 milliards de dettes à l'heure actuelle aux États-Unis.
Oui, et je crois par rapport à ça, l'aspect de la politique néolibérale, c'est ça qui est à l'origine de l'accroissement des dettes, quoi, dans toutes les politiques mondiales, et notamment en Europe, à partir des 70. Et je crois, pour revenir aux États-Unis, je crois qu'il y a toujours eu, déjà à l'origine de la dépense américaine, une lutte entre les financiers, à l'époque déjà, et les politiques. Les politiques qui avaient quand même... qui étaient des démocrates libéraux et qui avaient plus d'éthique que par rapport aux financiers qui étaient des requins. Enfin, déjà à l'époque, on sentait que le danger de la finance était déjà là.
Alors si j'ai voulu faire...
Le pire passage pour les Américains, c'était peut-être le krach boursier de Wall Street en 1926. Est-ce que les Russes, à ce moment-là, ils avaient le contrôle?
Alors là, c'est hors sujet, mais je continue ma chronique, je peux pas te répondre, hein. C'est un peu pointu, et je vois pas pourquoi tu parles des Russes.
Je pense que les Russes,
Russes étaient communistes à l'époque.
Ils étaient pas au-dessus des Américains, donc, après le krach boursier. C'est dans toute la planète, ça a fait le foutu de la war, en fait.
Et donc en fait, je voulais parler de la réserve fédérale, donc qui est privée et qui est la base de la dette colossale des Américains actuellement. Je voulais venir en France
à cause de qui,
en l'année 1973. En janvier 1973, il y a une loi qui apparemment serait passée. J'utilise le conditionnel parce que je ne sais pas si c'est vrai. Mes sources d'information ne sont peut-être pas fiables. La loi Pompidou-Giscard qui, en fait, permettrait de la même façon à des banquiers privés de financer l'économie française. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Oui, c'est ça, t'as pas tort, c'est ça, ça.
Donc, avant 1973, il y avait une dette infime, parce qu'en fait, l'État se prêtait à lui-même, parce qu'il créait sa monnaie, à taux zéro, il n'y avait pas de dette.
Oui, et d'ailleurs, moi, je me rappelle très bien quand j'étais dans les années 60, quand j'étais petit, on parlait de plans comme en URSS, en France. Mm-hmm. Le gaullisme, il y avait des plans de keynésiens, quoi. C'est-à-dire que c'était pas du tout le néolibéral. C'était le politique. D'ailleurs, De Gaulle disait avec justesse, la politique de la France ne se décide pas à la bourse. Et il avait raison quand il disait ça. Et c'est à partir de 73 que la politique de la France s'est faite à la bourse. D'accord?
Alors, moi, je vais poser une question avec mon petit cerveau. J'ai pas compris, je me suis retourné le cerveau à cause de ça. Pourquoi Pompidou et Giscard ont-ils mis en place la création monétaire par des banques privées et ont mis en place donc le mécanisme qui permet la dette colossale qu'on a actuellement et le discours qui dit que il faut rembourser la dette, il faut faire des politiques d'austérité pour pouvoir rembourser la dette, pour que les agences de notation elles soient contentes et tout. Pourquoi en 73 on a été faire cette loi alors que juste avant l'État s'autofinançait, créait lui-même la monnaie? Alors pourquoi, dans quel est l'intérêt?
Non, c'est pas seulement dû au choc pétrolier, c'est aussi un choix idéologique et un putsch, fasciste d'une minorité de privilégiés. Sous la bille de la démocratie, il y a des démocrates qui sont des fachos, ou il y a des gauchistes qui sont des fachos. Les fachos, c'est une pieuvre qui est partout, des tentacules qui est partout, Mohamed.
Moi, je pense que c'est le choc pétrolier, donc il y a un peu une crise à vapeur actuelle. Comme actuellement, le contexte actuel, il va plus avoir de pétrole, comment on va faire? Tout est basé sur le pétrole, l'économie française est détruite, donc il y a une certaine catégorie de personnes qui profitent pour faire passer des lois en leur faveur, comme ça se passe actuellement. Mais en France et en Europe, c'est pareil, je pense qu'il n'y a pas de banque européenne. Pour prêter de l'argent, c'est aussi des banques privées qui perdent de l'argent.
C'est uniquement des banques privées qui financent, qui prêtent en fait aux États.
Mais c'est un choix en fait, c'est ou l'inflation ou ça. Et puis l'inflation, dans l'image classique, alors que c'est qu'un mécanisme d'économie comme la dévaluation, comme plein de choses. Et l'inflation, donc moi c'est le preuve qui était à l'école, je suis né en 73, donc je me suis tapé toutes les années 70 et les années 80. C'était pas mal parce qu'il y avait plein d'espoir et plein d'associations et plein de choses qui sont nées à cette époque, contrairement au pessimisme de maintenant. Donc je disais que l'inflation... Donc l'image que j'ai après les études que j'ai faites, c'est les Allemands avec leurs valises. Hein. Bon, on parle d'inflation, je dis non, pas les Allemands qui vont avec des brouettes acheter du pain. C'est ce qu'ils m'ont raconté mes profs d'histoire. Donc j'en ai peur, donc... Quitte à faire ça, ben autant donner les clés au capitalisme et puis aux gens qui vont prendre des profits. Tant que les profits ne sont pas trop gros et que je peux continuer à vivre de la façon dont je vis, c'est la méthode la plus simple que de dévaluer. Et puis j'imagine que mes petites économies à la banque ne valent plus rien, quoi. Et que je puisse pas acheter du pain, donc c'est logique qu'il joue un petit peu avec les peurs des gens.
Pour revenir à ce que je disais par rapport à la pauvre fasciste, parce que les bourgeoisies ont suite au moment de la révolte dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis avec le mouvement hippie, que ce soit en Chine avec la révolution culturelle, que ce soit à Prague, que ce soit en France ou en Italie avec les mouvements sociaux en 1968, la bourgeoisie mondiale a dit il faut contre-attaquer idéologiquement, et la contre-attaque idéologique c'est imposer sournoisement le libéralisme et revenir justement à imposer le fait que les banques
des banquiers privés prêtent
face à putsch et prennent en main les destinées de l'État. C'est ça qui s'est passé de fait.
Je suis assez d'accord avec toi parce que moi ce que je comprends c'est que quand l'État est dépossédé de sa possibilité de créer la monnaie, il n'est plus souverain en fait.
T'as tout compris.
Mais quel est l'intérêt de Pompidou et Giscard en 73 d'avoir fait ça? Quel est l'intérêt d'avoir mis ça dans le traité de Maastricht?
C'est des pourris.
Vraiment que l'intérêt il est que si ils s'autofinancent pour faire marcher la planche à billets, il y a encore plus de déflation et la monnaie se dévalue encore plus. Donc à mon avis c'était peut-être ça l'intérêt. Il y a aussi que le contexte économique n'était pas du tout pareil. On vivait pas avec une politique commune comme aujourd'hui en Europe au niveau monétaire. Je pense que ils ont pas vu le grand méchant loup arriver. C'est surtout ça, je crois.
En fait, tu parles de déflation. Moi j'ai entendu donc des personnes dire qu'en fait le fait d'avoir passé ça en 73, ça a permis de lutter contre l'inflation. C'est le discours en fait qu'on peut entendre, qu'on va sûrement entendre dans la campagne présidentielle, alors que j'ai vu quelqu'un qui a mis les chiffres 10 ans avant 73, 10 ans après 73, le taux d'inflation était 3-4 points plus élevé que les 10 années précédentes. Donc je comprends plus, ce monde est fou, je ne comprends plus. Et je vais peut-être passer à la suite.
Mais qui est normal de nos jours, hein?
Oui.
C'est compliqué, le monde.
Les vieilles chères,
mais... Okay. Bon. Et donc, à un moment, je me dis peut-être que si tu dis, si ce que tu dis est vrai, c'est que c'est un putsch, ben peut-être qu'on devrait pas brader nos services publics, nos politiques sociales, pour cette dette, et qu'il faudrait dire merde, on rembourse pas la dette.
J'applaudis ce que tu dis. Non, on raquette, voilà.
Donc, merde, on rembourse pas la dette.
Voilà. Donc, on va terminer là. Voilà, nous.
Je veux juste dire que je ne comprends strictement rien.
Moi,
fonctionnement
aussi, moi, la politique,
politico-économico, culturaux, pétrodollars, on s'en fout.
On
a à bouffer, c'est déjà bien. Mais, j'ai quand même une fierté, c'est que les Français, il y a des mecs qui font la manche au feu. Les Français donnent, mais contrairement aux États-Unis, quand on est SDF, il faut acheter un flingue parce que c'est le dernier recours.
Oui.
Et en France, au moins, j'ai la fierté de dire qu'en France, on est généreux, on donne une petite pièce de temps en temps.
Pas tout le monde. On va arrêter là.
J'ai envie de dire, vive l'euro million. Je rigole aussi.
Vas-y, Johan.
Si je peux conclure ma chronique. Le monde est compliqué, alors j'appelle les auditeurs. Si vous avez plus d'informations, si vous avez relevé des erreurs dans cette chronique, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous, sincèrement, vous contactez Radio Boomerang, et on vous répondra, parce que c'est très important. Je trouve que ça a l'air d'être un nœud dans mon esprit, et je pense que c'est très important pour tout ce qui est crise de la dette. Et voilà.
On va arrêter là.
C'était les derniers mots.
Donc on va arrêter là, on va continuer avec la spirale de François. Et Jérôme, voilà.
La spirale. Le disque, cet objet circulaire, comprend une spirale. La spirale tourne dans la platine, mais elle tourne aussi dans les têtes.
Alors aujourd'hui dans la spirale, on est deux. Il y a François et moi-même.
Voilà.
François, t'as un super morceau de Nina Hagen avec la pochette d'origine. C'est l'album Unbe Hagen qui est génial. C'est African Reggae. Hein.
Bah oui, j'ai rapporté une rondelle de 79 de Nina Hagen qui s'appelle dans Hube Hagen. C'est l'album
Unbe Hagen.
Hube Hagen.
Ne pas être Hagen. Unbe Hagen.
Non, c'est Hube Hagen. Ça veut dire mal-être.
Je suis sûr que c'est Unbe.
Moi, je
Unbe.
Unbe. J'ai raison.
African Reggae aussi.
Hein?
Unbe.
Ce n'est pas African.
Et toujours est-il que c'est un morceau de 79, qui est un des plus connus de Nina Hagen, plus connu de Nina Hagen, c'est African Reggae.
Et j'adore le...
Donc on va l'écouter.
C'est la seule que je connais.
We wanna go to Africa.
les entonnoirs.
Merci François, c'était génial, la grosse basse. Et moi j'ai ramené Confessis. Mais écoutez plutôt la version, c'était marrant parce que je crois que c'est un, le morceau en fait. Il y avait même un morceau qui s'appelait Saigon Nightmare sur le maxi, le cauchemar de Saigon. Ça s'invente pas. Et vas-y, envoie la purée. Sur le morceau qu'on vient d'écouter,
c'est bon anniversaire, je sera assez. Mais
sur le morceau qu'on vient d'écouter, j'aime bien le.
Allez, faites la fête, amusez-vous.
Donc voilà, on arrive à la fin de l'émission. Donc on vous souhaite
une bonne semaine.
Et donc bisous à tout le monde.
À la semaine prochaine.
Bon courage, à plus.
Et n'oubliez pas de bien observer la face immergée de l'iceberg.
Voilà, au revoir. À la semaine prochaine. Ciao.
Vous savez, les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.
Écoutez les entonnoirs en podcast sur le blog des entonnoirs http://lesentonnoirs.over-blog.fr.
Parce que c'est des entonnoirs, parce qu'ils donnent plus fou dans la tête, et ça gratte des poux sur ma tête, et je viens plus fou, c'est ça les entonnoirs.